La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer avec vous à faire connaissance avec les femmes artistes créatrices qui se trouvent surtout derrière les projecteurs, hein, dans l'ombre des studios de cinéma, dans les coulisses. Bon, je parle des réalisatrices, scénaristes, monteuses, techniciennes, sans compter les productrices et les compositrices de musique de films que nous allons surtout découvrir au fur et à mesure que nous remonterons le temps. Alors, les deux dernières émissions, vous avez fait déjà la connaissance de quelques femmes, des pionnières en leur genre, puisque déjà au tout début du XXe siècle, elles ont exercé leur talent. Alors, après Loïse Weber, la réalisatrice présentée la fois précédente, après la scénariste et monteuse June Matiste, sans oublier l'actrice Eddie Lamar, qui viendra un peu plus tard, bon, je verrai si j'en reparle, mais que j'ai citée car elle était également scientifique, à l'origine deux découvertes qui ont permis aux télécommunications de prendre leur essor, et que je mets en rapport avec ces femmes qui, dans l'ombre des studios, étaient capables de faire fonctionner la technique et même d'apporter quelques innovations. Alors, parmi ces femmes, justement, qui ont permis un développement technique au service de l'image, je citerai Maud Adams, née Maud Ewin Kiskaden. Elle est née en 1872. Elle fut comédienne, mais aussi éclairagiste. Alors, elle était plutôt comédienne de théâtre et devint célèbre pour son rôle en tant qu'incarnation de Peter Pan. Et malgré son travail sur scène, elle permit néanmoins de favoriser le développement du cinéma grâce à ses recherches et découvertes en éclairage qui furent d'abord adaptées au théâtre. Alors, dans ce sens, elle a travaillé avec un ingénieur nommé Bassett Jones pendant une dizaine d'années, ce qui a permis, grâce à cette judicieuse complicité, quelques avancées notables dans ce secteur. Et le New York Times, le journal américain daté du 5 janvier 1908, écrira sur elle, et je cite, « Maud Adams invente le dispositif d'éclairage de scène. Sa nouvelle théorie de l'illumination scénique, développée à partir d'un passe-temps, est maintenant pour la première fois mise en pratique. » Bon, c'est dire qu'elle devait être déterminée et passionnée pour réussir à interpeller l'opinion au travers de la presse. Alors, lorsqu'elle cessa sa carrière de comédienne, elle se tourna vers le cinéma, mais en tant que technicienne éclairagiste. Et elle aurait alors créé sa propre équipe de recherche pour collaborer ensuite avec la grande firme américaine General Electric, le fournisseur d'électricité, et l'inventeur industriel Eastman Kodak. Bon, c'est un nom que nous connaissons tous, hein, puisqu'il est à l'origine des appareils photographiques portables. Alors, ceux-ci s'intéressèrent aux découvertes de Maud Adams, si bien qu'ils ont mis au point en 1922 la plus grande lampe à incandescence du monde. Mais malgré ces apports, Maud Adams ne recevra aucune rétribution, ni en numéraire ni autrement, et son nom sera rayé des brevets de la General Electric, et elle finira par être oubliée. Alors, à part cette contribution spécifique à faire évoluer la technique autour de l'éclairage, elle eut à cœur de faire en sorte que les films soient tournés en couleur et entreprit des recherches en ce sens, car elle pensait que la couleur impacterait davantage l'émotionnel du public. Alors, il semblerait qu'elle n'ait pas été vraiment satisfaite des résultats obtenus. Bon, en tout cas, elle avait des idées sur la manière de mettre en valeur une scène grâce aux lumières, aux éclairages, autant qu'elle en avait pour s'impliquer concrètement, pratiquement, en collaborant avec des techniciens. Et d'ailleurs, l'ingénieur Bassett Jones, son collègue, dira d'elle après sa mort, et je cite, « Elle a complètement réorganisé tout l'art de la scénographie, mise en scène et éclairage. À mon avis, Maud Adams était la plus grande artiste pertes de production que ce pays ait jamais vues. Bon, c'est certain que c'est un beau compliment. En tout cas, au début des années 30, son nom apparaît quand même dans 4 brevets en relation avec l'éclairage à incandescence qui est obtenu grâce à un filament que le courant réchauffe hein, jusqu'à ce qu'il devienne incandescent et ainsi produit de la lumière. Donc, Maud Adams s'implique pour optimiser l'éclairage à incandescence de haute puissance et dans 3 de ses brevets, elle est citée comme co-inventeur et même en tant que principale inventrice. Alors, elle est associée à des hommes, l'un nommé Raymond Francis Howe et l'autre Perley Gilman Nutting, qui avait déjà travaillé avec elle à la General Electric. Et ces brevets concernent un procédé qui permettait d'incliner la lampe sans casser le filament, l'autre pour le consolider et le dernier qui permet de refroidir une lampe à haute puissance. Alors tout ceci est très technique, mais apparemment Maud Adams évoluait très à l'aise dans ce secteur. Alors elle reviendra quand même sur scène, mais pour une brève période, car elle se consacrera ensuite à l'enseignement de l'art dramatique dans un collège pour décéder en 1953 à l'âge de 80 ans. Alors nous allons faire bientôt une petite pause musicale avec une compositrice de film, mais tout d'abord je vais vous la présenter. Bon, elle est anglaise, et d'ailleurs dans mes recherches j'ai constaté que de cette même génération, on est début du XXe siècle, les compositrices sont souvent des anglaises. Or, celle-ci se nomme Grace Williams. Elle est née en 1906 au Pays de Galles, dans une famille qui aimait la musique, puisque son père a initié ses enfants, si bien qu'elle, son frère et leur père avaient l'habitude de jouer ensemble. Alors, elle, c'était le violon, son frère le violoncelle et le père le piano. Or, bien évidemment, elle s'est orientée vers des études musicales, hein, bien que j'ai lu qu'elle était extrêmement douée en mathématiques. En tout cas, en plus du violon, elle a aussi appris le piano. Et grâce à ses dispositions, elle a obtenu une bourse qui lui a permis de parfaire son apprentissage, d'abord dans une université à Cardiff, puis au Royal College de Musique à Londres. Alors, elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, car en 1930, elle décrocha une autre bourse, prestigieuse celle-ci, la RCM Octavia, qui lui permit de partir à Vienne pour parfaire son éducation musicale auprès de maîtres émérites. Et elle a pu s'imprégner ainsi du romantisme des musiques allemandes, hein, comme celle de Wagner, par exemple. Alors en 1931, elle a 25 ans et à son retour en Angleterre, elle devient maître de musique dans une école pour femmes. Alors elle compose, elle est diffusée. Bon, ce sont des symphonies, opéras, pièces pour orchestre, musique de chambre, pour ensembles vocaux. Bon, c'est de la musique plutôt classique. En tout cas, bon, à ce qu'il paraît, elle serait l'un des meilleurs compositeurs gallois. Alors, il semblerait aussi qu'elle soit considérée comme l'une des premières femmes à écrire une musique de film. Il s'agit d'une musique pour un long métrage intitulé « Blue Scare », de la réalisatrice Gilles Grégier, car c'est aussi une femme qui a réalisé Blue Scare en 1949, qui est un drame sur fond social mettant en scène la vie des mineurs. Alors je nous laisse nous mettre dans l'ambiance maintenant avec Blue Scare.
Thank you.
Alors voyons quand même un peu qui est Gilles Grégier. À ce qu'il paraît, c'est une Britannique, moitié russe et moitié écossaise, née en 1911. Alors elle était plutôt réalisatrice de documentaires aussi. Blue Scare serait le seul film non documentaire que Gilles Grégier ait réalisé. C'est quelqu'un qui a l'air de posséder ce que j'appellerais une conscience sociale, car tout son travail propose une mise en lumière des incohérences et des injustices sociales. Et elle était aussi une militante féministe très engagée. Alors en dehors de ses réalisations cinématographiques, elle fut également scénariste et même actrice, et elle décédera en 1999 à l'âge de 88 ans. Alors j'ai constaté également que nombre de ces femmes qui écrivaient, qui savaient se servir de leur plume et la mettant au service du cinéma, la mettaient au service du cinéma en devenant scénariste, comme cette personne née en 1858 aux États-Unis et nommée Gertrude Atherton. Alors elle était écrivaine, en effet, et avait eu le culot d'oser publier, quand même sous un pseudonyme, un roman feuilleton dans un périodique qui lui valut les foudres maritales, familiales, car à ce qu'il paraît, son ouvrage contenait quelques scènes plus ou moins osées. Alors on va dire qu'elle n'était pas en odeur de sainteté, mais pour en revenir à cette dame, d'après ce que j'ai lu, elle se serait enfuie de chez elle à 17 ans, avec l'amant de sa mère, plus jeune que cette dernière de 14 ans, enfin. Quoi qu'il en soit, le mari, bon, je vais dire, décède, si bien que Gertrude Atherton a le champ libre pour se livrer à sa passion et à sa vocation d'écrivaine. Alors, elle écrira ainsi plus d'une cinquantaine d'œuvres, des romans où se lient l'amour, les conflits entre cultures, les faits de société, l'histoire, avec des femmes souvent des héroïnes plus ou moins intrépides. Et de ces romans, les plus célèbres s'intitulent « The Conqueror », donc le conquérant, une biographie romancée sur Alexander Hamilton, qui était, je crois, un homme politique du XVIIIe siècle, un des fondateurs des États-Unis et qui a industrialisé le pays. Un roman qui fut écrit en 1902. Et pour écrire ce livre, elle fit d'énormes recherches. Elle partit sur ses traces, décortiqua les livres, etc. Et l'autre s'intitule Black Oxen, écrit en 1923. Bon, elle a écrit en plus des nouvelles, des essais, des articles de journaux, des écrits féministes également, et donc aussi des scénarios pour films. En tout cas, son livre, Black Oxen, a été adapté au cinéma, qui à l'époque était muet, hein, comme vous le savez, et son roman et le film sont tous les deux intitulés Black Oxen. Alors le titre fait référence au nom du médecin, qui dans son roman pratique des traitements pour rajeunir les femmes vieillissantes. Bon, à ce qu'il paraît, son roman serait inspiré de sa propre expérience puisqu'elle a pratiqué sur elle-même des traitements avec rayons X radioactifs, paraît-il, pour stimuler les ovaires et les glandes sexuelles. Mais elle a écrit des scénarios pour d'autres films. L'un s'intitule, traduit en français, « Ne négligez pas votre femme ». Donc c'est tout un programme à suivre, bien évidemment. Messieurs, si vous m'entendez. Et un qui fut tourné en 1921. Alors je ne sais pas si c'est son traitement de rajeunissement ou sa passion de l'écriture qui l'ont fait durer si longtemps. En tout cas, elle est décédée à l'âge avancé de 90 ans. En 1948. Or, je vous propose encore un peu de musique, toujours composée par Grace Williams. Bon, ce n'est pas une musique de film, quoi que ça pourrait l'être. C'est en tout cas agréable à écouter avec de la harpe pour adoucir nos mœurs. Et place à Grace Williams. Thank you. Alors, deux écrivaines qui deviennent scénaristes, hein, j'en ai encore à vous présenter, notamment deux reconnues, avec June Matiste présentée précédemment, comme étant les meilleures scénaristes de leur génération. Et pour le moment, ce sont toujours des Américaines. Alors, l'une se nomme Anita Loos, elle est née en 1888, et ne fut pas uniquement romancière et scénariste, elle fut également actrice et productrice. Et figurez-vous qu'elle était l'auteur du roman « Les hommes préfèrent les blondes » écrit en 1925 et qui a été adapté au théâtre, puis au cinéma deux fois, en 1929 d'abord, puis en 1953. Alors cette dernière version a dû rester, hein, je le suppose, incrustée dans les mémoires masculines, car il était interprété par la ravissante Marilyn Monroe, blonde à souhait, dont les formes généreuses et suggestives ont dû en faire chavirer plus d'un. Mais ne nous égarons pas et revenons à Anita Loos, une très jolie brune d'ailleurs, qui écrira un peu plus tard un autre roman intitulé celui-là, « Mais ils épousent des brunes ». Bon, à vous de voir, hein. Par contre, il n'y a rien sur les rousses. Bah, tant pis pour nous. Enfin, quoi qu'il en soit, sa filmographie est très importante. Depuis 1912 jusque dans les années 40, elle avait commencé à écrire des scénarios pour les vedettes de l'époque, hein, comme Mary Pickford et Douglas Fairbanks, qu'elle propulsera sur le devant de la scène grâce à son travail de scénariste, en passant par Jean Arnaud, Jane Russell, entre autres stars de ces époques. Et elle fut d'ailleurs très amie avec l'actrice Paulette Goddard, qui me rappelle le film de Charlie Chaplin, intitulé « Les temps modernes », dans lequel elle est l'actrice principale. Bon, vous devez vous en souvenir également, parce que c'est quand même un film culte. Alors Anita Loos écrira également de nombreux scénarios pour son mari, le producteur-réalisateur John Emerson. Ses débuts dans le cinéma se feront cependant sur les planches, hein, poussées en cela par son père journaliste et éditeur. Son premier rôle sera dans le film intitulé « Covadis », à ne pas confondre avec le péplum tourné en 1951 et interprété par Robert Taylor et Deborah Kerr comme acteurs principaux. Celui-ci était certainement, vu l'âge d'Anita Loos, un film muet. Quant à l'écriture, notamment de scénarios, elle sera par la suite révélée grâce à un théâtre créé par son père. Bon, apparemment, son travail a du succès. Et par la suite, c'est en envoyant des scénarios à des studios de production qu'elle s'introduira petit à petit dans le milieu du cinéma, où elle sera très appréciée et fera carrière. Ceci dit, elle continue d'écrire ses romans, qui également ont du succès. Bon, alors quelques titres, hein, en anglais, intitulé « A Girl Like I », « Une fille comme moi », qui est un livre plutôt autobiographique au début de sa carrière, ou bien « Kiss Hollywood Goodbye », « Embrasser Hollywood et au revoir » de 1974, où elle relate aussi, je crois, son expérience à Hollywood. Alors parmi les films dont elle a écrit les scénarios, on retiendra « La femme aux cheveux rouges », de 1932, Saratoga de 1937, La conquête de l'or, Corruption, entre autres. Et elle adaptera également un roman de Colette intitulé Gigi au théâtre. Et après une belle et longue carrière, elle s'éteindra à l'âge plus qu'honorable de 93 ans. Alors l'autre écrivaine et scénariste qui fut également journaliste et notamment correspondante de guerre pendant la Première Guerre mondiale et aussi réalisatrice de films se nomme Frances Marion. Elle est née également en 1888 et c'est la première femme à recevoir en 1930 l'Oscar de la meilleure adaptation pour le film The Big House, La Grande Maison, et ensuite en 1932 celui de la meilleure histoire originale pour The Champ, le champion. Alors elle aussi débutera sa carrière comme actrice et se formera par la suite à tous les métiers du cinéma. Elle commencera par être l'assistante de Louise Weber, que vous connaissez maintenant, et finira par être l'auteur de centaines de scénarios pour la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigée par les producteurs Irvin Thalberg et Samuel Goldwyn. Bon, comme vous le savez également maintenant. Alors, il faut dire aussi que sa carrière de scénariste sera plutôt longue, une trentaine d'années environ, de 1915 à 1945. Et elle réalisera trois films en 1921, l'un intitulé « The Love Light », le signal de l'amour, puis « Just Around the Corner », juste au coin de la rue, et « The Song of Love », la musique de l'amour. Co-réalisé celui-ci avec Chester Franklin en 1923. Et ce sont tous des films muets, bien évidemment, à ces époques. Et ceci dit, elle collabora aussi pendant longtemps avec l'actrice et productrice Mary Pickford. Quant à l'écriture de pièces de théâtre et de romans, sa spécialité, ce sera plutôt après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, et elle décédera à 84 ans en 1973, juste après avoir publié ses mémoires. Bon, il faut quand même dire qu'au début du XXe siècle, autour des années 10, la moitié des films produits sont écrits par des femmes. Eh bien, c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous quitter pour mieux nous retrouver au prochain numéro de La Voix des Arts. Nous restons au cinéma avec nos artistes femmes créatrices qui, vous l'entendrez, ont encore bien des choses à vous apprendre. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.